Scientific Skepticism. The blog.
The blog.
The blog, what is it?
Épisode 26 pour le samedi 28 novembre 2009. Aujourd'hui, j'accueille sur Scepticisme Scientifique Sébastien Paumier, qui est professeur de zététique à l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée, et il va nous parler de son cours. Je suis avec Sébastien Paumier, qui est chargé de cours à l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée, et qui donne un cours de zététique. Alors évidemment, ça a attiré mon attention. Je l'ai découvert très récemment sur un des forums consacré à la zététique et au scepticisme. Quelqu'un a mis le lien vers la page web que tu as créée à propos de ton cours et j'étais assez surpris parce que je n'en avais pas entendu parler autrement. Est-ce que c'est un nouveau cours? Tu l'as débuté cette année?
Alors c'est un cours qui a démarré l'an dernier, donc un cours qui avait été donné donc, la première fois aux étudiants de deuxième année de licence maths informatique, donc sous la forme d'une option. Et en fait, donc cette année, donc il est prévu qu'il soit reconduit en deuxième année de licence à maths informatique, mais ce qui s'est passé, c'est que ce cours a attiré l'attention d'une autre formation, et du coup, donc là, il a démarré dès maintenant en troisième année d'une école d'ingénieurs qui travaille sur l'audiovisuel, le multimédia, ce genre de choses. Donc du coup, ça fait deux formations dans lesquelles on enseigne la zététique à Marne-la-Vallée.
Dans cette interview, je vais surtout te poser des questions sur le contenu de ton cours, mais au départ, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Comment est-ce que quelqu'un devient un professeur de zététique?
Ça commence il y a quelques années en regardant une émission de Laurent Ruquier, dans laquelle deux sympathiques messieurs Charpak et Broche, viennent présenter un livre qui s'appelle « Devenez sorcier, devenez savant », dans lequel ils montrent tous les trucs classiques des fakirs et autres charlatans pour faire croire qu'ils ont tout un tas de pouvoirs spéciaux. Et ça a été un gros choc de découvrir ça. Je me suis dit, mais c'est absolument génial. Pourquoi est-ce que personne m'a jamais parlé d'un truc comme ça avant? Donc je me suis précipité sur le bouquin. Je l'ai dévoré. J'ai acheté tous les autres bouquins que j'ai pu trouver pour continuer à creuser ce nouveau champ qui s'ouvrait devant mes pieds. Et puis, donc comme ça, pendant à peu près 2 ans, on va dire, j'ai écumé toutes les sources d'informations possibles et imaginables sur le sujet scepticisme, donc aussi bien tous les travaux sur le paranormal, les pseudomédecines, etc. Et jusqu'à là, c'était plutôt un hobby, en fait. Et puis un jour, en discutant avec des collègues, on s'est rendu compte qu'on était plusieurs à partager ce goût pour le scepticisme appliqué, on va dire. Et ça nous a donné l'idée de dire, mais tiens, en fait, et si on essayait d'en faire? Et puis, justement, il se trouve qu'un jour, on déjeunait avec un collègue qui a des responsabilités à l'université, il nous a dit, mais oui, pas de problème, vous avez qu'à proposer un cours, et puis, oui, c'est tout à fait intéressant. Approche critique, initiation à la méthodologie scientifique, ça peut faire un très très bon cours. Et donc, on est allé voir la personne responsable de la licence, puisque c'était là où ça semblait le mieux s'intégrer si on voulait introduire quelque chose de nouveau. Et la personne nous a dit « Ah oui, ça a l'air super, allez-y, qu'est-ce que vous avez à proposer ?» Et donc, à partir de là, on a commencé à préparer donc une série de cours, de 12 cours, et ça s'est fait comme ça, en fait, finalement.
Quelle est ta formation?
Alors, informaticien. Donc, je suis en fait exactement maître de conférence en informatique. Mon domaine de recherche, c'est le traitement automatique des langues. Donc, ce n'est pas une discipline qui est très sexy du point de vue zététique, parce qu'il n'y a pas grand-chose à y faire. C'est pas comme la physique ou la chimie, où là, il y a plus de chats à fouetter. Mais bon, on fait avec.
Oui, donc j'ai pu un peu lire le contenu de ton cours sur la page web, et je mettrai le lien dans les notes de l'émission, évidemment. J'ai l'impression que tu as conçu ton cours essentiellement comme un cours, comme tu dis, d'introduction à la pensée critique, donner un peu des outils à tes élèves, des outils d'autodéfense intellectuelle.
Voilà, c'est exactement ça. Sachant qu'en fait, la zététique telle qu'elle est enseignée notamment à Nice par Henri Broche, qui est beaucoup plus axée justement sur le côté expérience, calcul, etc., Je le sentais pas trop, d'abord parce que c'est pas du tout ma compétence et que j'ai absolument pas l'expertise nécessaire. Et puis, en fait, ce qui m'intéressait essentiellement dans ce cours, c'était pas tellement de m'adresser à des gens qui sont en formation scientifique, mais plutôt à essayer de voir mes étudiants comme des apprentis citoyens qui ont besoin qu'on leur donne les clés essentielles pour être capables justement d'affronter les flots d'informations auxquels ils sont confrontés, particulièrement avec le web évidemment. Donc ce cours a vraiment été conçu comme une introduction, qui nécessite le moins de prérequis possible. Donc on a essayé vraiment de minimiser les connaissances nécessaires pour comprendre ce cours, donc en particulier sur tout ce qui est loi des nombres, probabilités, statistiques. On a essayé d'être le plus pédagogue possible pour éviter de décourager les gens qui ont peur d'une petite formule dès qu'elle pointe le bout de son nez. Donc on a vraiment essayé de faire quelque chose de très simple à appréhender sans avoir nécessairement de bagage culturel scientifique.
Mais malgré tout, les trois premiers de tes cours sont consacrés aux statistiques, aux probabilités, aux hasards et prédictions. Donc tu débutes le cours en abordant ces questions de statistiques.
Voilà, en essayant de donner le strict minimum nécessaire. Donc on rentre pas dans des choses très, très compliquées. Hein. Sur le premier cours, ce qu'on montre essentiellement, c'est les pièges dans lesquels il est facile de tomber. Donc on n'apprend pas à faire des statistiques, on apprend à voir, à repérer les indices qui montrent qu'on a affaire à de mauvaises statistiques. Donc c'est plutôt un aspect prévention, on va dire. Dans le deuxième cours, sur les probabilités, l'idée, c'est essentiellement de faire passer le message que la notion de probable telle qu'on l'entend au quotidien, c'est pas forcément la même chose que le probable au sens mathématique, et que ce probable au sens mathématique, bah, ça peut être important d'avoir une idée, non pas forcément de comment le calculer, mais au moins, dans un premier temps, se rendre compte que, en règle générale, les êtres humains sont pas doués du tout pour les probabilités. Donc il y a des choses comme le très classique paradoxe des anniversaires. Quand on demande aux gens, si on prend 30 personnes, quelle est la probabilité pour que il y en ait au moins deux qui soient nés le même jour, l'intuition dit que ça doit être très faible, et en fait, pas du tout, c'est pas du tout très faible. Donc, de mémoire, c'est 71%, quelque chose comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment, à travers tout un tas d'exemples, de montrer à quel point les probabilités, c'est quelque chose dont il faut vraiment se méfier comme de la peste, parce qu'on n'est vraiment pas doué pour les comprendre. Et que avoir conscience que c'est facile de se faire avoir sur une fausse perception de ce qui est probable ou improbable, c'est déjà un premier pas pour arriver à éviter le problème. Donc il y a un exemple qui est, enfin une phrase de Henri Broche que j'aime beaucoup, c'est que quelque chose d'improbable arrive est improbable, mais qu'un événement improbable, n'importe lequel arrive, ça c'est très probable. Et c'est le cas typique où on voit quelque chose qui nous paraît extraordinaire, donc que ça soit par exemple un nuage qui a une forme spéciale dans le ciel, que ça soit on connaît quelqu'un dans la rue qui a gagné au loto, ça soit j'ai trouvé un portefeuille, on dit « c'est extraordinaire ». Oui, mais n'importe quel événement aurait pu faire l'affaire, simplement c'était pas prédit à l'avance, et donc ce côté c'était improbable, oui, ce truc là particulièrement était improbable, mais qu'un truc improbable n'importe lequel arrive, ça fait partie du quotidien. Et donc quand on commence à relativiser un petit peu les choses comme ça, ce qui nécessite pas du tout de maîtriser des calculs de probabilité compliqués, ça permet de relativiser un petit peu un certain nombre de choses qui sinon peuvent paraître tout à fait incroyables. Donc il y a l'histoire par exemple de les tests sur la parapsychologie où on fait faire des expériences à des gens qui sont soi-disant capables de deviner ce qu'il y a par exemple sur des cartes, les fameuses cartes Zener de Rhines, et on se rend compte qu'il y a plein de gens autour de la planète qui refont l'expérience et que ça a l'air de marcher. Oui, sauf que si on réfléchit deux minutes, ça a l'air de marcher, ils l'ont refait, oui, mais il y a aussi tous ceux qui l'ont refait, pour qui ça n'a pas marché, et qui, eux, ne vont pas le dire, parce que ça se fait pas trop de dire qu'on a essayé un truc et que ça n'a pas marché. Donc, du coup, si on prend conscience un petit peu de cette façon de relativiser, et que, bah, en particulier, pour être capable d'apprécier un succès, il faut être capable de se rendre compte de combien il y a eu d'échecs de l'autre côté, parce que sinon, évidemment, ça ne veut rien dire. 10 personnes qui ont réussi, c'est très bien, mais si c'est 10 personnes pour 400 000 échecs, évidemment, ça n'a pas le même poids que 10 personnes sur 15 essais. Donc, c'est toutes ces choses-là, pour essayer de mettre un peu en perspective les informations auxquelles on est soumis, qu'on va aborder dans ce cours. Donc, du coup, effectivement, on a l'air de commencer par des sujets assez mathématiques, mais on n'a pas besoin d'un gros bagage mathématique pour appréhender ça.
Et ensuite, tu attaques les raisonnements fallacieux, les mauvais raisonnements et les illusions sensorielles.
D'abord, les fautes de raisonnement, c'est quelque chose d'absolument terrible, pour deux raisons. La première, c'est que c'est très facile de se tromper sans faire attention. Donc, il y a énormément de bonnes raisons pour le cerveau humain de fonctionner comme ça, parce que plus il prend des raccourcis, et plus il s'économise, hein, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et donc, par exemple, le fait de se dire un événement s'est produit après un autre, donc l'un a causé l'autre. Bon, bah, c'est voilà, j'ai pris un remède de grand-mère avec du miel et des myrtilles, et j'ai perdu mon rhume. Ah oui, mais le fait que j'en ai d'abord pris du miel et myrtilles et qu'après on se guérit, ça ne veut absolument pas dire qu'il y a un lien de cause à effet.
Donc, c'est comme on dit, les sceptiques aiment dire que pour l'homéopathie, par exemple, quand je prends un médicament homéopathique pour la grippe, si je n'avais pas pris le médicament homéopathique, ça m'aurait pris une semaine pour guérir, mais avec le médicament homéopathique, ça n'a pris que 7 jours.
Exactement. Donc ce genre de faute de raisonnement, il y en a toute une panoplie. Et encore, je suis bien certain qu'il en manque pas mal dans mon cours. C'est déjà un premier point de voir que... on a malheureusement tendance à assez mal raisonner. On prend des raccourcis, on extrapole, on se base sur des stéréotypes, des choses comme ça. Donc ça déjà, en soi, c'est assez mal. Mais ce qui est encore pire, c'est que c'est assez facile d'être de mauvaise foi. Et donc c'est pour ça qu'il y a un cours sur la rhétorique. Tout simplement parce que l'art de la rhétorique, c'est, comme disait Schopenhauer, c'est l'art d'avoir toujours raison, mais sans jamais regarder les arguments objectifs du fond du débat. Et donc, y a toute une batterie de techniques qui permettent d'avoir l'impression d'avoir raison, alors qu'en fait, à aucun moment, on discute vraiment les choses. Et ça, c'est typiquement le genre de cours qui trouve une application directe dans n'importe quel débat télévisé, par exemple, où on va voir avec un œil tout neuf la façon dont les gens éludent les questions ou essayent de retourner l'argument de l'autre en l'exagérant complètement ou utilisent des techniques de mauvaise foi pour détourner l'attention et répondre à côté. Enfin, toutes ces techniques-là font que c'est assez facile, si on en a envie, de biaiser un débat. Et pour ça, il y a malheureusement quelque chose qui est assez récurrent. C'est les rares fois où on voit des débats entre des tenants de n'importe quel charlatanisme et des sceptiques. La plupart du temps, au moins du point de vue du téléspectateur, le sceptique se fait massacrer, il se fait absolument écraser, pour la simple et bonne raison que, face à quelqu'un dont c'est le métier de raconter des conneries, avoir raison pour remporter le débat, c'est ni nécessaire ni suffisant. Quand on veut essayer de discuter avec des gens qui ne sont pas raisonnables, des gens qui n'ont pas un mode de pensée très rationnel, c'est quelque chose de très 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 difficile si on n'y est pas préparé. Et si on veut s'en convaincre, il suffit d'essayer chez soi. Vous prenez n'importe qui autour de vous, petit copain, la maman, la grand-mère, peu importe, et vous discutez d'un sujet où il y a un petit fond de croyance du style homéopathie. Et très très vite, on sent qu'on atteint des résistances très fortes et auxquelles on n'est absolument pas préparé par défaut. On n'a pas l'habitude de discuter avec des gens qui ont des positions et qui ont des arguments, même si ces arguments ne sont pas forcément bons. Mais quelqu'un qui vous dit « oui, ton grand-père, il était capable de faire des passes pour guérir les brûlures », bon, si on émet un doute, tout de suite, on se prend une répartie qui dit « oui, c'est ça, traite ton grand-père de menteur ». Et c'est pas possible de discuter. Et donc, cerner un peu ces problèmes de raisonnement, de rhétorique, bah, ça permet d'identifier déjà, dans un premier temps, les problèmes. Et puis, une fois qu'on a identifié les problèmes et qu'on est capable d'identifier les gens qui utilisent, consciemment ou non, ces mauvais arguments, ces mauvais raisonnements, bah, déjà, ça permet de voir où ça coince. Et après, éventuellement, si c'est des gens avec qui on a envie de croiser un peu le fer, avoir levé l'endroit où il y a un problème, bah, déjà, ça évite, au moins, même si on n'est pas sûr d'arriver à les convaincre, au moins, ça évite de s'embarquer dans des discussions complètement stériles, du style « prouve-moi que les fantômes n'existent pas bah, ». Je suis désolé, mais c'est logiquement impossible. On ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. Et on en a un bon exemple en ce moment avec tous les débats sur la dangerosité présumée des ondes de téléphone portable. Prouvez-nous qu'il n'y a pas de risque. Mais c'est absolument impossible, fondamentalement, de prouver l'inexistence d'un risque. Évidemment, ça peut arriver qu'un jour, quelqu'un découvre quelque chose et met en évidence le fait qu'il y a un risque avéré. Mais en attendant, si on a fait une batterie de tests possibles et imaginables et qu'on n'a aucune raison de penser qu'il y a un problème, bah, dans le doute, peut-être on pourrait se dire « bon, bah, on voit comme ça pour l'instant, et puis bon, bah, s'il y a un problème, on reverra les choses plus tard ». Mais le côté « on veut prouver l'inexistence du risque », c'est absolument stupide et c'est une fuite en avant où ça s'arrêtera jamais parce que on va dire voilà on veut un seuil plus bas pour la puissance des antennes et puis encore plus bas et puis encore plus bas et puis encore plus bas et puis bah quand le seuil sera tellement bas qu'il va à peu près correspondre à la vraie le seuil de dangerosité aura été suffisamment abaissé pour qu'il corresponde à peu près à ce que les antennes utilisent vraiment comme puissance, bah à ce moment-là, les gens vont changer d'argument et dire « Eh mais regardez, on est presque au seuil de dangerosité, donc les antennes c'est très dangereux, donc il faut les arrêter. » Donc ce genre de choses, et cet exemple-là des antennes est très frappant, malheureusement, bah ça c'est quelque chose qui vient d'un problème de raisonnement. L'immense majorité des gens ne voient pas, n'ont pas conscience que c'est un problème qui n'a pas de solution, c'est de démontrer l'inexistence d'un risque. Donc si on peut aider en regardant un peu ce genre de problème de raisonnement, bah, ce sera toujours ça.
J'avais envie de rebondir sur ton point sur les débats avec des tenants. C'est vrai que la première fois, j'étais assez surpris d'entendre à propos des créationnistes aux États-Unis, les sceptiques américains disaient « si vous êtes juste un biologiste et que vous n'êtes pas habitué à débattre des créationnistes, n'essayez pas de débattre un créationniste. Ça demande des compétences particulières d'essayer de débattre ces gens-là parce que avoir la vérité de son côté, ça ne suffit pas. Il se ramène devant un auditoire, il y a le créationniste et le biologiste, et puis le créationniste, il va faire une petite tirade de 3 minutes où il y aura 50 erreurs scientifiques dedans, et puis le grave scientifique, après, il lui faudrait une heure pour corriger toutes les erreurs que le gars a fait dans sa première tirade, et il est complètement submergé. C'est extrêmement difficile de débattre de manière efficace. Et donc, à certains moments, on peut conseiller aux gens de ne même pas essayer de débattre publiquement avec ce genre de personnes-là.
Ben, c'est un peu le problème, et particulièrement là, avec l'histoire des ondes de portables. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en pratique, les scientifiques ils finissent par en avoir plein de dos, qu'il y ait sans arrêt des gens comme les Robins des Toits qui viennent contester en disant « oui, mais blablabla », alors que les scientifiques qui ont des dizaines d'années d'expérience derrière eux savent pertinemment que c'est des questions qui sont réglées depuis belle durée, etc., etc. Et du coup, bah, ils finissent par réagir de façon un peu excessive en refusant de continuer à débattre avec eux. Et à ce moment-là, eh ben, on rentre dans la théorie du complot, mais regardez, ils n'osent pas venir avec nous, ils ont des choses à cacher, blablabla. Donc ça s'arrête jamais, en fait, ce genre de délire. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment avoir conscience de ce que je disais à l'instant, à savoir qu'il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut être préparé à discuter avec des gens pas raisonnables, parce que sinon, si on n'est pas prêt à ça, on peut être le meilleur spécialiste, le meilleur expert dans un domaine, on n'a aucune chance d'arriver à convaincre face à des gens dont finalement c'est la seule arme. Parce qu'en règle générale, ces gens-là, bah, ils n'ont pas d'arguments scientifiques. Et par contre, ils sont très très bons en communication. Et si on n'a pas, si on n'est pas préparé à ça, on n'a absolument aucune chance.
Les derniers cours, tu abordes la méthode scientifique et puis comment analyser les prétentions d'une théorie, comment analyser la fiabilité des informations, et tu termines en parlant des pseudo-sciences. Donc là, tu te recentres plus sur la méthodologie scientifique ou une introduction à la méthodologie scientifique.
Voilà. L'idée, c'est de, dans tout le début du cours, de voir tous les pièges possibles dans lesquels on peut tomber donc aussi bien les pièges de raisonnement, de stats, voire de fraude carrément, puisqu'on a tout un cours consacré à l'illusionnisme, où on montre que tromper les gens, c'est un métier, ça s'appelle l'illusionnisme, et que quand il y a des illusionnistes qui décident non plus de faire du spectacle, mais de l'arnaque, et ça devient très très dangereux, évidemment, puisque ils sont experts. On a tout un cours sur la manipulation mentale, toutes les façons qu'on a de faire aux autres à peu près ce qu'on veut. Et une fois qu'on a passé en revue dans ces 8 premiers cours tous les pièges, ou au moins une grande partie d'entre eux, on regarde un petit peu, ok, donc on a vu toutes les erreurs à pas commettre. Maintenant, si je veux m'informer honnêtement, objectivement, comment je fais? Et là, naturellement, la réponse, c'est la méthodologie scientifique, parce que le fait de dire, je veux des faits, si j'ai un raisonnement, je vais être capable de le suivre étape par étape, et à chaque étape, ça doit être solide, absolument solide, et les hypothèses doivent être raisonnables, etc., 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 c'est ça la démarche scientifique. Être scientifique, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Être scientifique, c'est pas parce qu'on a fait des études scientifiques qu'on est scientifique. C'est pas parce qu'on est professeur d'une discipline scientifique qu'on est scientifique. Être scientifique, c'est vraiment une démarche. Et j'aurais tendance à dire que un enfant qui se pose des questions honnêtement, en voulant vraiment trouver la réponse, mais sans avoir d'idées préconçues, et qui est prêt à voir et à regarder les arguments qu'on va lui proposer, il va être plus scientifique qu'un professeur qui va faire la sourde oreille à un argument nouveau parce que c'est un petit nouveau et que ça colle pas avec ses théories. Donc, naturellement, même si c'est si ça fait un peu pompeux de dire scientifique, science avec un S majuscule, si on veut s'informer honnêtement, naturellement, c'est la méthode scientifique qui va s'imposer. Et donc, on va voir dans cette série, c'est justement qu'est-ce que c'est que s'informer objectivement. Donc d'abord, la méthode scientifique, grosso modo, sur quoi est-ce que ça se base? Sur des critères fondamentaux, comme par exemple le fait qu'un résultat, ça doit être reproductible. Et que si quelqu'un me dit « j'ai vu un truc, c'était merveilleux, mais ça marche que à tel endroit », là, c'est très suspect. Parce que si vraiment c'était quelque chose de fiable et de reproductible, ça devrait peut-être pouvoir se refaire ailleurs. Donc si ça se fait qu'à un endroit, c'est qu'il peut y avoir une bonne raison. Et donc dans ce cas-là, il faut chercher à éliminer une par une toutes les raisons qui feraient que ça pourrait être que à cet endroit, parce qu'il y a une situation géographique particulière, ou ci, ou ça. Mais voilà, c'est ça. C'est cette idée d'aller au fond des choses, et de ne pas se laisser arrêter par des formulations floues, par des détails qui sont un peu éludés, ce genre de choses. C'est aussi s'intéresser à la précision et à la significativité des résultats. Et qu'il ne suffit pas d'avoir vu un truc une fois pour dire « Ah oui, ça marche !» Non, parce qu'il y a toujours des petites erreurs expérimentales. On se doute bien que, par exemple, on ne va pas tester l'efficacité d'un médicament sur 5 patients, parce que ça ne veut rien dire. Le hasard fait que sur 5 patients, on peut avoir beaucoup de bol, au contraire, beaucoup de malchance. Donc, relativiser ce qu'on observe avec un peu de recul statistique pour vérifier que oui, ce qu'on a vu, c'est vraiment significatif. Ça va être aussi les régularités des protocoles, parce que évidemment, si je teste quelque chose mais que mon protocole est complètement biaisé, typiquement, si je veux faire un test de vue, ça me rappelle quand j'ai fait mes 3 jours à l'armée, c'est tous les uns derrière les autres pour faire le test de vision, et donc on fait le test de vision, on récite les lettres qui sont sur le petit panneau qui est 3 mètres plus loin, et celui qui est juste derrière, évidemment, il nous entend réciter le truc, donc... Ça, c'est typiquement l'exemple du protocole complètement foireux. Toutes ces questions-là, de comment est-ce que je fais pour contrôler les choses soigneusement, rigoureusement, ça, c'est l'étude de la méthodologie scientifique. Et puis après, une fois qu'on a la méthode, on va avoir un autre problème à résoudre qui va être, ok, mais maintenant, les faits sur lesquels je me base, comment est-ce que je les acquiers? Où est-ce que je trouve mes informations primaires? Et là, on a un problème, c'est que soit par manque de temps, soit par manque de moyens, on pense à des expériences par exemple sur l'apesanteur, on se doute bien que c'est pas n'importe qui peut aller faire des expériences en apesanteur pour voir si le machin a tort ou raison, dans ce genre de cas, on est obligé de faire confiance à quelqu'un. En général, ce quelqu'un, c'est un expert. Donc, ça peut être soit sous la forme de revues scientifiques qui publient des choses, ou de quelqu'un qui vient raconter un résultat, ou d'une académie, ou d'une instance, quelle qu'elle soit. Et la question, c'est, moi, j'y connais rien, c'est pas mon domaine, j'ai ni le temps ni l'argent pour aller vérifier ce qu'il raconte, comment je me fais une idée de la crédibilité de ma source d'information? Et ça, c'est un très très gros problème. Parce que on a complètement chamboulé la notion d'expertise et que, grosso modo, tout le monde est expert dans tous les sens. Et que si j'ai deux personnes qui sont présentées comme experts, ben voilà, laquelle, si elles ne sont pas d'accord, à laquelle je peux essayer d'accorder ma confiance. Et donc, ben là, on va se poser les questions d'abord de la crédibilité de l'expert. Donc, on va vérifier, est-ce que l'expert, d'abord, est-ce que c'est une expertise qui est sanctionnée par une expérience réelle ou pas? Donc, par exemple, quand je regarde une théorie des complots sur est-ce qu'il y avait des explosifs dans les tours du World Trade Center, entre l'internaute lambda et l'expert en métallurgie qui a fait 10 ans d'études, bon bah qui je vais croire préférentiellement quand il s'agit de regarder des courbes super techniques de fusion de métal? Bah là, clairement, la réponse est l'expert en métallurgie est quand même plus crédible. Mais le problème, c'est que c'est pas toujours aussi simple. Parce que on peut très bien tomber sur des gens qui vont avoir l'air d'être dans le domaine bien comme il faut. Donc voilà, j'ai deux personnes qui veulent me parler d'OGM, et les deux sont biologistes de formation. Il y en a un qui me dit que c'est très très dangereux, que c'est le mal absolu. Il y en a un qui dit que non, qu'il y a des normes européennes, françaises, et qu'on les teste rigoureusement. Comment je me fais une idée de qui fait quoi? Bon, là, il va falloir se poser des questions, regarder un petit peu. Est-ce que c'est juste un titre? Ou est-ce que les gens pratiquent au quotidien? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Est-ce que... Donc, beaucoup de questions à se poser pour essayer d'évaluer la crédibilité de l'expert. Et une fois qu'on a réussi à essayer de surmonter tout ça, et que l'expert a l'air crédible, eh ben c'est pas gagné pour autant, parce que même les experts peuvent se gourer, ça arrive. Et grosso modo, qu'on finit par voir tout à la fin de ce cours, c'est que au final, il n'y a jamais aucune circonstance dans laquelle on puisse débrancher son esprit critique en se disant « Ok, ce type-là, il a carte blanche, je sais qu'il dira toujours que des choses bien, donc je peux prendre tout ce qu'il me dit pour argent comptant. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et je le répète, la démarche scientifique, être critique, être sceptique, c'est pas un fait acquis, gravé dans le marbre, c'est une attitude au quotidien où on doit à aucun moment relâcher sa vigilance, parce que même les gens avec les meilleures intentions du monde et qui sont très raisonnables d'habitude, ils peuvent aussi se tromper, ça arrive. Et que il y a vraiment pas de passe-droit à accorder à qui que ce soit. À partir du moment où on commence à vouer une confiance aveugle à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, c'est terminé. On est sorti de l'esprit critique, on est sorti de la science, et on rentre tout bêtement dans la croyance. Si je commence à accepter quelque chose juste parce que c'est un tel qui le dit, sans chercher à voir pourquoi est-ce que je dois avoir raison de croire un tel, alors, ça y est, je ne fais plus de la science, je suis un croyant. Et au sens aussi large que ça puisse être. Hein. Si je crois que, sous prétexte qu'il a été professeur, physicien, etc., si je crois que Yves Rocard a raison, et que du coup je peux avoir confiance dans ses travaux sur les pendules, j'ai perdu. J'ai perdu parce que justement je me suis gouré, j'avais accordé ma confiance, et quelle que soit les choses que la personne raconte après, je lui préserve cette confiance, alors que les raisons d'avoir confiance ont disparu, et du coup ça y est, je me mets à croire des conneries. Donc ne jamais s'arrêter d'être critique, vigilant, et si on parle avec quelqu'un qui est de bonne foi, et qu'on se rend compte qu'il a tort, en général, les gens de bonne foi, ils aiment bien reconnaître qu'ils ont tort parce qu'ils n'aiment pas raconter des conneries, donc ils préfèrent qu'on vienne leur dire qu'ils se trompent plutôt que de vous contredire en disant « non, j'ai raison ».
Au niveau pédagogie, j'ai vu qu'il y avait des travaux pratiques qui allaient avec ce cours. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme travaux pratiques?
Alors, comme travaux pratiques, l'an dernier, on a fait d'abord des petits exercices statistiques de deux sortes. L'un qui consiste à travailler avec un petit logiciel qu'on a fait pour essayer de fouiller un petit peu dans des données qui correspondent à des tirages de dés dans lesquels il y a des dés truqués, mais on ne sait pas lesquels. Et donc l'idée, c'est de voir un petit peu comment est-ce que je peux essayer de fouiller dans une grosse masse de résultats pour voir si oui ou non il y a des choses suspectes. Et le deuxième exercice statistique, ben, on fait des matchs de prédiction, parce que ça c'est une des activités les plus rigolotes qu'on puisse faire quand on ne sait plus. Donc on fait faire aux étudiants des matchs de prédiction avec des astrologues. Très très belles applications pour faire ça facilement sur le web. Et bizarrement, comme le prédit sceptique, bah, les étudiants font à peu près toujours aussi bien que les astrologues, surtout quand les astrologues ont poussé la naïveté jusqu'à, par exemple, ne pas prédire d'incendie en juillet-août. En général, sur ce genre de prédiction, on n'a pas trop de mal à faire mieux qu'eux. Donc ça, c'est une première chose. Après, on fait des analyses d'argumentation. Donc là, l'idée, c'est qu'on donne des extraits de débats opposant sceptiques et charlatans aux étudiants. Et donc là, c'est de l'analyse. On regarde un petit peu, bah, voilà, à quel moment est-ce que les gens sortent des clous en utilisant un argument foireux, à quel moment ils répondent à côté de la plaque. Donc, c'est un exercice qui justement a pour but de montrer à quel point c'est difficile de débattre quand on n'est pas préparé à affronter ce genre de faute de raisonnement. On a aussi un exercice qui consiste à préparer un protocole pour tester des horoscopes. Donc l'idée c'est, voilà, je veux me faire une idée sur la validité expérimentale des horoscopes, donc si je veux imaginer une expérience dans laquelle je vais trouver des gens, donc des sujets qui veulent bien se prêter à l'expérience, et je vais leur lire trois horoscopes, donc celui qui est censé être le leur, un d'un autre signe et un autre truc lambda qui va servir de contrôle, qui est le même texte pour tout le monde, comment est-ce que je conçois mon expérience pour qu'elle soit valide, qu'il n'y ait pas de biais, pas de problèmes expérimentaux, etc., etc. Et bah en fait, c'est pas si facile que ça, même si l'exercice comme ça a l'air assez simple. Il y a un certain nombre de précautions à prendre si on veut faire les choses soigneusement, pour par exemple s'assurer qu'au moment où on va choisir au hasard un autre horoscope que celui de la personne, bah, comment est-ce que je vais faire ce choix? Parce que si je veux être rigoureux, je peux pas le faire de tête, parce que ça serait pas randomisé. Donc il faut que je trouve un moyen de tirer au sort, mais il faut que je puisse tirer au sort sans que la personne voit que je suis en train de tirer au sort, etc., etc. Donc il y a tout un tas de petits problèmes pratiques à résoudre si on veut faire les choses vraiment rigoureusement. Et donc bah ça occupe pas mal d'essayer de mettre au point un protocole qui soit vraiment rigoureux pour faire ce genre de choses. Et ça permet aux étudiants de voir que justement rigueur expérimentale, c'est pas qu'un mot, et qu'il y a vraiment des efforts à faire pour essayer de contrôler tous les paramètres qui peuvent influencer sur quelque chose. Par exemple, on avait un étudiant qui avait eu une très très bonne idée en disant comme je sais que je pourrais pas tout faire sur une journée, j'ai pris un horoscope qui marchait à la semaine. Et les autres comprenaient pas trop pourquoi elle avait fait ça, et donc l'argumentation de l'étudiant, c'était parfaitement correct, c'est-à-dire on est en train de faire une expérience pour voir si ça marche. Donc a priori, j'ai pas de raison au départ de supposer que ça marche pas. Et donc si l'horoscope il est censé être pour une journée précise, je peux pas utiliser tous les horoscopes pour mes expériences sur plusieurs jours de suite. Donc mon expérience serait pas bonne, et donc je suis obligé, si je veux le faire sur plusieurs jours, de prévoir un horoscope qui est valable sur plusieurs jours. Et ça c'est une question qui avait échappé à tous les étudiants, sauf un, la question de ok, je suis dans un cours d'esprit critique, donc je veux tester que les horoscopes marchent ou marchent pas, mais je pars avec l'a priori que ça marche pas. Et justement, ça c'est la faute à pas commettre. Si je veux tester quelque chose, et que dans mes hypothèses j'ai déjà une idée du résultat, je fais une faute. Donc c'est toutes ces petites questions-là qu'on va regarder, et il y a beaucoup de travail.
Combien d'élèves tu as à ce cours?
Alors, donc l'an dernier, en licence, on avait eu 14 élèves. ce qui était tout à fait exceptionnel, parce que vu le nombre d'options proposées et vu le nombre d'élèves, c'était plutôt un très très bon score. Et donc là, cette année, avec donc les troisième années de l'école d'ingénieur multimédia, on a fait très fort aussi, puisque sur une classe de 35 à peu près, on a entre 25 et 30 étudiants qui ont pris cette option et qui ont l'air de beaucoup l'apprécier.
Quelles sont les réactions à ce genre de cours ?
Et ben, la réaction, c'est qui commence par prendre beaucoup de baffes par rapport à tout ce qu'ils ont l'habitude de voir, de croire, d'entendre, de lire. Et que ils commencent à regarder les journaux, par exemple, avec un œil différent. Ils commencent à envisager les discussions de fin de repas en famille avec un œil différent. Et en fait, il y a beaucoup beaucoup de points qu'on regarde sur lesquels ils disent ah mais oui c'est vrai tiens ah bah oui ah j'avais jamais pensé à ça. Et donc en fait ils sont dans une espèce d'état de découverte perpétuelle. Où à chaque cours, on enfonce encore le clou sur des nouvelles choses auxquelles ils n'avaient jamais spécialement pensé avant. Et ils découvrent que, ah oui, mais tiens, là, c'est vrai, j'ai toujours cru que ça, mais au fait, pourquoi je l'avais cru? Et ah oui, bah tiens, j'ai peut-être une bonne raison de ne pas croire ça. Et bon, évidemment, en plus, je vais prendre un malin plaisir dans mon cours à les titiller le plus possible. Donc, par exemple, dans le cours sur l'illusionnisme, évidemment, j'ai pas résisté au plaisir de construire une planche à clous et de les faire défiler dessus. Et donc, le fait pour les étudiants de voir concrètement, d'avoir l'occasion de pratiquer un pseudo-miracle eux-mêmes, c'est l'occasion pour eux vraiment de prendre conscience que, ah mais oui, c'est vrai, il y a vraiment des trucs comme ça où on a l'impression que c'est miraculeux, et puis en fait non. Et du coup, ça remet en cause beaucoup, beaucoup de choses. Et on a vraiment l'impression qu'ils commencent à ouvrir les yeux, et c'est vraiment une sensation très très agréable de voir ces étudiants qui commencent à ouvrir les yeux.
Est-ce que tu emploies par exemple des études de cas ou des choses de similaires? Par exemple, moi je m'intéresse beaucoup à l'ufologie d'un point de vue sceptique, et souvent entre sceptiques qui s'intéressent à ce sujet-là, on se dit prendre un cas classique de la quasistique ufologique et d'expliquer aux gens qu'on peut en fait l'expliquer sans avoir un vaisseau spatial extraterrestre. C'est pédagogiquement intéressant. Est-ce que tu utilises ce genre d'exemples réels?
On analyse quelques exemples dans le cours. Donc, par exemple, on discute un peu de la marche sur le feu, des guérisseurs philippins, de ce genre de choses. On discute aussi des quelques faux miracles préférés des sceptiques que sont le sang de Saint-Janvier et le suaire de Turin. Donc là, on regarde vraiment en pratique comment est-ce qu'on fait, quelles sont les recettes, et ça nous permet d'aller vers la notion de rasoir d'Occam, hein, puisque évidemment, le fait qu'on arrive à reproduire un miracle avec des moyens absolument pas miraculeux, ça prouve en rien que l'autre n'est pas vraiment en train de faire un miracle. Simplement, si j'ai le choix entre l'explication qui fait appel à des choses magiques, surnaturelles, occultes, tout ce qu'on veut, les extraterrestres, peu importe, et de l'autre côté quelque chose de parfaitement rationnel, est-ce que c'est pas plus raisonnable de prendre l'hypothèse la plus simple, on va dire? Donc on discute de cette question à partir de ce genre de cas. Et puis derrière, on en profite aussi pour rebondir sur le fait que y a des fois où ça marche pas, et que principe de rasoir d'Occam, préféré entre deux hypothèses la plus simple, celle qui fait le moins appel à l'extraordinaire, il y a des fois où on se gourre tout simplement, parce que au moment où on regarde les choses, on peut avoir simplement quelque chose qui nous échappe complètement, parce qu'on n'a pas les connaissances ou le recul nécessaire. Et c'est ce qui est arrivé, un des exemples les plus célèbres, c'est les histoires de dérives de continents, où quand la théorie a été formulée pour la première fois, c'est un météorologue, si mémoire est bonne, qui a parlé de ça, et on lui a dit, mais attendez, c'est absolument n'importe quoi, si c'était vrai, il y aurait des forces absolument gigantesques en jeu, et on n'a pas le moindre début d'un indice qui montre qu'il y a ces forces-là. Et effectivement, donc on a laissé son truc de côté, et puis sauf qu'un jour, on a vu que oui, si, il y avait de bonnes raisons de croire qu'il y avait ces forces gigantesques, et donc on est revenu à l'hypothèse précédente. Donc, les études de cas comme ça, c'est très, très intéressant parce que justement, ça permet de voir aussi bien les avantages que les défauts des outils scientifiques qu'on a, puisque bah, ils ont aussi des fois leurs limites. Mais bon, dans l'ensemble, ça marche quand même pas trop mal. Et en décortiquant un certain nombre de cas classiques, on arrive quand même beaucoup, beaucoup à avancer. Et la plupart du temps, on rigole bien aussi.
Je pense qu'il y a beaucoup de sceptiques qui auraient aimé avoir un cours comme ça quand ils étaient plus jeunes et qui regrettent de ne pas avoir eu un tel cours. Ça leur aurait évité d'avoir à faire tout le chemin par eux-mêmes. Mais pour me faire un peu l'avocat du diable, est-ce que... Bon, c'est la question de l'enseignement de la pensée critique. Est-ce que prendre des élèves à cet âge-là, donc à un niveau universitaire, c'est pas déjà parfois trop tard et qu'il faudrait peut-être aborder ça plus tôt ou imaginer un programme plus tôt au niveau du secondaire, enfin du lycée ou même... Voilà. Est-ce que c'est pas trop tard en termes d'âge? Parce que souvent, je veux dire, tu as parlé du fait que tes élèves étaient enthousiasmés par le cours, ce que je peux bien imaginer, mais tu dois me dire que dans le tas, il doit quand même avoir des gens qui croient déjà dans des choses et qui ont déjà fait des lectures, qui les ont fortement influencés et qui doivent suivre ton cours en se disant « Ok, c'est intéressant, mais dans le fond, peut-être que quand même, telle ou telle chose est vraie. »
Eh ben oui, on est bien d'accord, c'est trop tard. En fait, c'est exactement ce qui m'a frappé donc le jour où j'ai découvert le bouquin de Broch et Charpak. Au moment où j'ai découvert ça, je sais plus si j'étais déjà en thèse ou si je finissais mon DEA, mais ça m'a frappé en me disant comment ça se fait que je peux arriver à ce niveau-là d'études et que j'ai jamais eu de cours sur ces questions-là. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pris conscience d'un truc tout bête, c'est que qu'est-ce qui définit la science? Et je me suis rendu compte qu'à aucun moment dans mon parcours scolaire, jamais on m'avait expliqué ça. Donc j'avais fait des études scientifiques, un lycée scientifique, etc. Mais à aucun moment, personne n'a jamais cherché à répondre à cette question. Mais au fait, c'est quoi la science? Tout simplement. Et c'est là que je me suis dit vraiment, comment c'est possible que finalement on discute jamais de ça? Et malheureusement, c'est pas parce qu'on a fait une thèse et qu'on est devenu enseignant à l'université qu'on maîtrise ça pour autant. Il suffit pour s'en convaincre de discuter un peu au coin de café avec des collègues. Et même si on est dans un laboratoire scientifique, etc., etc., les conversations au coin de café, ça vole pas plus haut qu'à n'importe quel comptoir. Les mêmes sur la graphologie, les mêmes idées reçues sur l'homéopathie, enfin... il n'y a absolument pas photo. Donc, ça montre bien, d'une part, que être un professionnel de la science, ça ne veut absolument pas dire être scientifique, c'est deux choses bien différentes. Et deux, ça montre que, oui, si on pouvait commencer à faire réfléchir un peu plus tôt, bah, ça serait peut-être pas mal. Et si on veut vraiment être très, très, très perfide, peut-être qu'au lieu de se prendre la tête au lycée sur des questions très très existentielles sur le temps existe-t-il en philosophie, peut-être canaliser un petit peu plus les problèmes de rhétorique, ça pourrait faire de l'usage plus concrètement, plus vite.
Moi évidemment je m'intéresse beaucoup au scepticisme anglo-saxon et je regardais ta bibliographie, évidemment c'est surtout c'est tout des ouvrages en français et dans la liste, par exemple, il y a des ouvrages que je considère un peu comme des classiques du scepticisme, comme Carl Sagan, The Demon Haunted World, ou James Randi, Flim Flam. Et en fait, c'est des livres qui n'ont même pas été traduits en français, à ma connaissance. Et donc, j'avais envie de te poser un peu la question du manuel, ou est-ce que tu as un textbook, un manuel que tu utilises pour tes élèves, ou quelque chose qui te sert de support pour ton cours?
Ce que j'ai trouvé qui s'en rapprochait le plus, c'est le manuel d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon.
Ah
oui. Qui est une bonne introduction. Bon, la fin du bouquin est un peu engagée sur le côté libertaire, etc. Donc là, les avis peuvent diverger. Mais comme espèce de petit guide de voyage sceptique, celui-là est pas trop mal, oui. Mais un manuel vraiment du scepticisme de A à Z. En tout cas, en langue française, j'ai pas encore vu mieux que ça. Peut-être un bouquin à écrire, qui sait.
Oui, tout à fait. Nous arrivons à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter qu'on n'aurait pas abordé?
plutôt un conseil général à ceux qui nous écoutent, ça serait de considérer la curiosité comme un des plus grands trésors qui soit, et surtout de jamais, jamais, jamais essayer de la brider. Si on arrête d'être curieux, c'est fini. Donc soyez curieux, n'hésitez pas à essayer de creuser et à ne pas accepter sur parole des choses que vous voyez, que vous lisez, que vous entendez, et bah, peut-être que vous vivrez plus sereinement.
Mais c'est un excellent mot de la fin. Alors, en tout cas, merci d'être venu sur le balado. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont été intéressés de t'entendre parce qu'ils auraient, comme je le disais avant, aimé avoir un tel cours eux-mêmes. Ah, peut-être une prochaine fois, on aura certainement l'occasion de reparler ensemble.
Avec plaisir.
Se quitte cette semaine, j'aimerais vous rappeler l'existence sur Wikipédia en langue française, l'existence du projet scepticisme rationnel. Donc si vous êtes un sceptique, un zététicien, un rationaliste, un athée ou que sais-je encore, n'hésitez pas à nous rejoindre et que vous avez un compte sur Wikipédia et que vous aimez intervenir pour éditer les pages de Wikipédia pour en améliorer le contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le projet Scepticisme Rationnel. Pour le trouver, c'est très simple, vous allez sur Wikipédia français et vous tapez dans le moteur de recherche projet de point scepticisme rationnel. Et là, il ne vous reste plus qu'à vous rajouter à la liste des participants pour vous identifier comme un contributeur de Wikipédia sceptique. Voilà, plus on est de fous, plus on rit. À la semaine prochaine, c'était Jean-Michel Abrassard, sceptiquement vôtre. Your guru assures if you follow his regimen, you will become a most excellent specimen. The power to live on and on for all days is right at your fingertips if someone pays. He says that his aura will keep you alive for three easy installments of $10.95. The device he uses sucks out the bad juices and leaves no bad bruises. It simply deduces the proper percentage of X in your brain. This miracle cure leaves no permanent pain. And still, you can't believe what a skeptic I am. I can't believe you believe in that plan. We disagree, but I still give a damn. Your astral projections are coming along. Chakra and chi are both growing real strong. Your cold disappeared after just 9 short days, all thanks to the words on the whole earth displays. Now due to the juices and pills and the creams, your body's lost toxins, whatever that means. You've stopped eating all of that sinister food. Your dinner tastes awful, so it's gotta be good. And still, you can't believe what a skeptic I am. I can't believe you believe in that sham. We disagree, but I still give a damn. The ramification of treatments from holy men leaves me slightly queasy deep down in the abdomen. Convinced that the lives that they lead need adjusting, they drive to the bookstore and blindly start trusting the miracles and cures all laid down in black ink, never even bothering to stop and think. The only real power that I do believe is the dollars and cents all these authors receive. If miracle wonders were held in their looks, why
I waste precious time and try selling their books. Oh, I sit and wait for your publishing royalty. If one has real power, who needs reader loyalty? If you could travel by thought to a mystical place, why go to book signings and vie for shelf space? Why would you wait for your agent to call you in vain and try to convince you he's worth 12%? Why would you bother with talk shows and a crazed publicist? Why deal with the people that repeatedly insist that you show them real proof that your powers exist? Hey, convince some real skeptics or cease and desist. Trust me, 6 months from now, you folks will not be missed. What is the moral that we all must learn, especially those of us with money to burn? Before your eyes widen at the book on the shelf, think, is he helping you, or is he helping himself? You can't believe what a skeptic I am. You should believe what a skeptic I am.